personne humaine est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des
filles. Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture.
Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Dans son cours consacré pour la deuxième année consécutive au voyage de Pausanias en Béotie, Denis Knopfler retrouve dans la visite de Thèbes racontée dans la Périgèse cette façon que Pausanias a d'utiliser dans son texte et ce qu'il a vu vraiment et sa bibliothèque, donc ce qui est écrit sur les villes qu'il visite par les historiens et les poètes dans l'Antiquité. Ce savant mélange de choses vues et de choses lues fait toute la beauté et la saveur du texte de Pausanias. Mais l'épigraphe qu'est Denis Knopfler se doit de dénouer ces divers apports afin d'établir les sources du livre neuf de la Périgèse qu'il va bientôt publier. Denis Knopfler, dans ses cours, sépare les mythes de l'histoire, réajuste les chronologies, retraduit certaines expressions mal retranscrites et s'appuie sur l'érudition pour ressusciter les multiples strates de l'histoire réelle et mythique de la ville de Thèbes. Cette palpitante reconstitution s'était arrêtée dans le cours que nous avons entendu hier à l'urbanistique thébaine. Thèbes, la ville aux sept portes, comme il est dit dans Homère. Et en effet, nous avons pu nous rendre compte que l'histoire de cette ville est aussi fascinante que sa mythologie. Ce matin, Denis Knopfler poursuit ce déchiffrage savant du texte de Pausanias et s'arrête plus singulièrement sur ce que Pausanias dit d'Épaminondas, le grand général et homme d'État thébain, qui réussit à chasser les Spartiates de Béotie qu'ils occupaient en les battant à Leuctre en 371 avant Jésus-Christ. Cette victoire donna à Thèbes une suprématie sur le reste de la Grèce de son temps.
Concernant l'histoire proprement dite, envisagée par lui à partir du chapitre 6, le Périégète s'est montré, comme toujours en pareil cas, extrêmement sélectif, ne voulant rappeler que les épisodes jugés les plus fameux, Tafanerotata. Aussi n'a-t-il pratiquement rien retenu de la période archaïque, 8e, 7e siècle, qui est aujourd'hui encore fort mal connue. Pour lui, l'histoire de Thèbes ne commence véritablement qu'avec le conflit qu'il oppose à Athènes au sujet de Platée à la fin du 6e siècle avant notre ère, surtout avec la seconde guerre médique qui vit les Thébains, prendre fait et cause pour l'envahisseur perse. Chose dont Pausanias, d'ailleurs, tient à disculper le peuple thébain. Entraîné qu'il aurait été, dit-il, à cette trahison par l'aristocratie au pouvoir. Ensuite, ce qu'il juge digne d'une mention rapide, c'est la participation thébaine à la guerre du Péloponnèse, aux côtés de Sparte, puis cette guerre, une fois achevée par la défaite d'Athènes, le rapprochement des Thébains avec les Lacédémoniens, avec les Thébains, excusez-moi, contre les Lacédémoniens, et leur succès éclatant, bien sûr, à Leuctre en 371. Il passe immédiatement à la guerre dite sacrée, guerre phocidienne, entre Thèbes et les Phocidiens, pour la domination sur Delphes et l'amphictyonie delphique, c'est-à-dire aux années 357-346. Il mentionne enfin, après la défaite de la coalition grecque devant Philippe Achéronée en 338, la destruction de Thèbes par Alexandre 3 ans plus tard. Rupture profonde, on le verra, mais non pas définitive dans l'histoire thébaine, comme il le montre lui-même et comme nous le verrons à travers divers témoignages. À la lecture de ce résumé très succinct des annales thébaines, On ne peut donc manquer d'être frappé par le silence qu'observe Pausanias sur la période où Thèbes exerça l'hégémonie dans le monde grec, c'est-à-dire entre 371 et 362. Pas un mot, chose étonnante, dans ce passage, sur les deux grandes figures de cette glorieuse époque, Pélopidas et surtout Épaminondas. Les aurait-il donc oubliés dans son livre béotien, alors qu'il évoque certains épisodes de la carrière d'Épaminondas, au livre 4, à propos de la restauration de la ville de Mécène, au livre 8, à propos de la fondation de Mégalépolis, en Arcadie, et de la bataille de Mantinée, celle qui met fin à sa carrière et à sa vie en 362. Non, pas du tout, en réalité. Mais il a préféré réserver à Épaminondas, sinon à Pélopidas, mort dès 364 et qui est laissé un peu dans l'ombre, trois chapitres complets de son logos thébaïkos. Donc il ne l'oublie pas, loin de là. Et cet homme d'État, visiblement, lui inspirait de la sympathie. Peut-être parce qu'il avait été l'adversaire et le vainqueur de cette cité de Sparte, contre laquelle il avait lui-même, on le voit bien dans le livre 4 en particulier, il avait lui-même un certain parti pris. Et c'est de manière fort habile qu'il a inséré cette longue digression historique dans ce livre neuf à propos de Thèbes. Il prend prétexte de la présence d'une statue d'Épaminondas en bordure de la place publique, qui, selon les Thébains, occupait l'emplacement de l'ancien palais, c'est-à-dire nous sommes là au centre, de l'Académie, là où se sont déployées les fouilles justement récentes, le témoignage des Thébains étant que l'agora de l'Académie occupait approximativement l'emplacement du palais de Cadmos, le fondateur. Donc, il est question ici de l'agora de la ville haute, de l'Académie, non pas du tout de celle qui se trouvait dans la ville basse, dont nous avons parlé au séminaire à propos des événements de la libération de Thèbes en 379. Agora, grande agora, dont, curieusement, Pausanias ne parle pas, lui. C'est une des lacunes que l'on peut observer dans sa description de Thèbes. En effet, le Périégète laisse entendre, mais de façon bien vague, que la statue d'Épaminondas s'élevait au voisinage d'une autre statue de caractère public, celle de l'Aulète, Pronomos, on peut dire une des grandes gloires artistiques, musicales de Thèbes. Et d'ailleurs à peu près contemporain de l'homme d'État. Pausanias mentionne en effet ces deux monuments dans la même phrase, chapitre 12, 6, toute petite phrase, touton, c'est-à-dire pronomon, teun entauta, oi tebaioi, les Thébains, kai epaminondan, ton polumnidos anetesan. Les Thébains ont consacré la statue et de Pronomos et de d'Epaminondas, fils de Polumnis. Et à l'extrême fin de ce développement sur Épaminondas, trois chapitres, encore une fois, notre auteur signale que cette statue portait une épigramme formée de deux distiques élégiaques, c'est-à-dire un hexamètre et un pentamètre, dont il reproduit le texte seulement alors, après en avoir indiqué brièvement la teneur. Voici ce passage, on lira l'épigramme, elle la traduira, c'est ceci, mettons peut-être comme cela, donc quatre vers, lisons-les, ils valent la peine. Emeterais boulais, partais, men keirato doxan, me sene diere tecna, chrono deketai, tebes doploisin, Megalépolis, Estefanotai, autonomos de las paz en eleuterier. Donc, un poème soigné, une belle épigramme, comme le plus souvent, cet genre littéraire qui a été pratiqué de façon abondante et heureuse par les anciens Grecs. Et vous voyez cet épigramme, qu'on peut traduire ainsi, ça n'est pas toujours aisé, je tente cette traduction, c'est par nos desseins que Sparte a été dépouillée, donc le verbe est keirato, de sa gloire, et que Mécène accueille ses enfants après un long délai, c'est par les armes de Thèbes que Mégalépolis est ceinturée, et que l'Hellade entière jouit de l'autonomie dans la liberté. On voit que donc l'épigramme est mise en quelque sorte dans la bouche d'Epaminondas, Emeterais Boulais. D'où l'absence évidemment de son nom dans le texte même. Ce nom, avec son patronyme, devait se trouver néanmoins sur la base elle-même, sous une forme ou sous une autre, peut-être justement, comme le suggère Pausanias, accusatif, Epaminondas, avec le patronyme, on reviendra sur cette question du patronyme, ou alors peut-être simple nominatif, puisque il n'est pas rare au IVe siècle d'avoir ainsi le nom du personnage statufié au nominatif. Donc en quatre vers savamment composés, l'épigrammatiste résumait la carrière du grand capitaine thébain, dont il glorifiait le sens politique et tactique, ce sont les boulais, les desseins, les conseils, allusion sans doute à la stratégie, notamment à la stratégie mise en œuvre à Leuctre, en se gardant toutefois d'oublier que rien n'eût été possible sans la puissance militaire thébaine, ce sont les thébès opla. L'humiliation de Sparte qu'annonce le premier vers était évidemment un rappel de la mémorable victoire de Leuctre, 371, remportée grâce à la décision d'Epaminondas, on y reviendra, d'attaquer l'adversaire en rase campagne. À cet abaissement de la cité tyrannique de Sparte était opposée la libération de la Grèce entière, chose qu'exprime le dernier vers, sans qu'il soit possible d'affirmer d'ailleurs que le poète ait voulu par là faire état de la situation du reste assez confuse qui résultait de la bataille de Mantinée en 362. Après laquelle, donc, Epaminondas disparaît. Et il n'est pas sûr, en fait, que l'épigramme, ici, soit posthume, qu'elle ait été rédigée seulement après 362. Il n'y a pas, encore une fois, d'allusion sûre à Mantinée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'auteur a tenu à mentionner sobrement deux des plus belles réalisations de l'homme d'État thébain dans le Péloponnèse, à savoir le repeuplement, le synoïkismos de Mécène, après tant d'années d'exil des Mécéniens, plusieurs siècles, et la protection assurée par les armes thébaines à la cité arcadienne de Mégalépolis, fondée avant même qu'Epaminondas n'intervienne en 369 dans les affaires péloponnésiennes. De fait, notez-le, l'épigramme ne présente pas Epaminondas comme le fondateur de Mégalépolis, car le verbe stéphanotai ne signifie pas nécessairement, alors que, quoi qu'on le dise ou que cela ressorte de la plupart des traductions ou des commentaires, que la ville a été couronnée de murs par Epaminondas, ce qui serait l'acte du fondateur. Non, elle est seulement protégée alentour par les forces thébaines. C'est une ville qui était déjà en passe d'être constituée au moment où Epaminondas, et d'ailleurs accompagné de Pélopidas, arrive dans le Péloponnèse. Il est vrai que Pausanias, au livre 8, se montre tout disposé à lui accorder ce titre de ctistès aussi de Mégalépolis. Mais sans doute à tort. Comment témoigne le fait que le Thébain n'eut jamais droit à un culte de fondateur à Mégalépolis, à la différence très visible de ce qui s'est produit à Mécène, où son rôle de fondateur était pleinement reconnu, comme on va le voir dans un instant. L'épigramme, donc, cité par Pausanias, présente non seulement d'indéniables qualités littéraires,
aurait vu le balancement savant, mais aussi une incontestable valeur documentaire. De fait, il était difficile de dire plus de choses en moins de mots. C'est tout l'art de l'épigrammatiste. Il n'en reste pas moins vrai que le monument d'Epaminondas à Thèbes pose un problème. Qui, chose curieuse, n'a jamais été abordé de front, si je vois bien. Pausanias a-t-il réellement vu cette statue de ses yeux? A-t-il réellement copié sur la pierre, à la manière d'un moderne épigraphiste, les vers qu'il a tenus à reproduire dans son ouvrage? La question peut paraître bien impertinente. S'agissant d'un voyageur aussi scrupuleux, d'un monument aussi célèbre. Il faut bien dire pourtant que les doutes sont permis. Force est de constater d'abord que Pausanias ne dit rien de l'emplacement précis de la statue, ni de son aspect, ni de son état de conservation. Surtout, il est muet sur le nom de l'artiste à qui était dû ce portrait. Or, tout donne à penser aujourd'hui que ce sculpteur, ou plus exactement ce bronzier, c'était une statue de bronze selon toute apparence, n'était pas le premier venu, puisque à Delphes, dans le cas de Pélopidas, on peut dire l'alter ego d'Epaminondas, c'est au grand Lysippe de Sicyone, le futur portraitiste d'Alexandre le Grand, que les Thessaliens, alliés en l'occurrence des Béotiens, avaient confié le soin de faire la statue au lendemain de la mort de ce général Thébain, donc de Pélopidas en 364. On le sait depuis 1939 par une inscription trouvée à Delphes, inscription mutilée, certes, mais qui nous donne tout de même l'essentiel, la signature de Lysippe en dernière ligne, Lysippos, Lysippus, Sukionios, la récession là ne fait pas de doute, la mention de Pélopidas à la ligne 5, comme vous le voyez, la mention des Thessaloi comme auteur de la consécration, et au-dessus, un petit poème, très semblable à celui que nous venons de lire, et également un double distique qui, lui aussi, met en évidence l'abaissement de Sparte et la victoire thébaine, en l'occurrence, au profit des Thessaliens. Et on a vu, lors de la séance de séminaire de la semaine dernière, qu'il y avait à Thèbes même une mention de Lysippe sur une autre base de statut qui très certainement se dressait à Thèbes. C'est d'ailleurs à cet égard une confirmation de la présence de Lysippe à Thèbes. On en avait un document déjà anciennement connu. Et on a vu d'ailleurs au terme d'une discussion qui n'a pas manqué de vivacité que ce général anonyme désigné comme hégémon en polémoi, donc pas dans cette inscription mais dans celle que publiera mon collègue et ami Pierre Ducret, haut commandant de la guerre, de la cité dans la guerre, pourrait bien, en fin de compte, ne faire qu'un, soit avec le grand Epaminondas en personne, soit avec l'un ou l'autre de ses collègues, dans l'hypothèse où le nouveau piédestal ne constituerait en réalité que l'extrémité gauche d'un grand monument honorant les généraux vainqueurs à Leuctre. Pour revenir un instant à au beau texte de honorant Pélopidas à Delphes, il faut noter que l'édition qui en avait été donnée et qui a cours aujourd'hui encore, je le montre rapidement, par exemple, dans ce recueil si commode, notamment pour les étudiants, qui est le volume tout récemment paru de Madame Muller du Feu, qui s'intitule « Sculpture grecque » et qui réunit de manière très commode tous les documents et textes se rapportant aux sculpteurs de l'Antiquité. L'édition qui est donnée n'est pas tout à fait satisfaisante, car on sait depuis 1963 en réalité qu'un petit fragment vient s'ajouter ici à la première ligne, après Spartem Men, et ce petit fragment des lettres Chi, Eta, Rho, comme on le voit dans l'édition ici de Hansen, qui est plus recommandable, des Carmina Epigraphica Graeca, ces trois lettres suffisent à démontrer que pratiquement toute la restitution, qui était d'ailleurs trop audacieuse, de l'épigramme, est aujourd'hui caduque. Également, évidemment, ça va sans dire, la traduction. Cela donc pour rendre attentif au fait que, évidemment, une épigramme est un texte difficile et que il faut, avant de reproduire une restitution, il faut peut-être y regarder à deux fois. Je ferme cette parenthèse. On est donc surpris devant le silence de Pausanias face à la statue prétendument dressée sur l'agora de Thèbes à l'époque de son passage. Surtout quand on compare la façon dont il présente d'autres piédestaux tout à fait semblables. Prenons l'exemple qui me semble particulièrement significatif, car le monument est à tous égards comparable, de la statue de Philopeimen à Tégée en Arcadie. Pausanias avait en effet pour ce chef achéen de l'époque hellénistique, Philopeimen, celui qu'on appelait de façon un peu abusive le dernier des Grecs, une admiration égale à celle que lui inspirait Epaminondas, considéré d'ailleurs comme un modèle par Philopeimen lui-même. Pausanias parle à son propos de la mimesis Epaminondou, donc Philopeimen qui imite deux siècles plus tard Epaminondas. De fait, il procède pour Philopeimen exactement de la même façon que pour Epaminondas. D'abord, il mentionne la statue. Il fait un long excursus historique, tout cela donc dans le livre 8, Arcadie. Et puis, il cite une épigramme célébrant le héros achéen. Donc, on constate que le parallèle est parfait. Or, dans le cas du monument de Tégée, Pausanias note expressément que le piédestal, ou plutôt, en l'occurrence, il y en avait deux côte à côte, les piédestaux, dont il indique avec grande précision l'emplacement sur l'agora de la ville, à proximité du théâtre, il dit ces piédestaux sont privés de statut. Chapitre 49 du livre 8, « Autai de huc eisin ai eikones ». Les portraits manquent. Les effigies de bronze datant du début du IIe siècle, avait déjà disparu, donc, à l'époque de Pausanias, quelques siècles plus tard. Mais le personnage pouvait être identifié grâce aux inscriptions, grâce aux épigrammata. Voilà donc qui met, en l'occurrence, hors de doute, le caractère très direct du témoignage du Périégète dans le cadre de la statue de Philopeimen. Il n'en va pas autrement quand Pausanias évoque les portraits d'Epaminondas, qui de son temps encore, se dressait dans certaines cités du Péloponnèse. Ainsi, en premier lieu, bien sûr, à Mécène, la ville fondée par Epaminondas. Il relève la présence de deux effigies du fondateur, en deux endroits distincts de cette ville de mieux en mieux connue, vous le savez sans doute, par les fouilles extensives, toujours en cours, de notre collègue Petros Themelis. L'une de ces statues se trouvait aux côtés d'une statue représentant, chose intéressante, la ville même de Thèbes, personnification de Thèbes en tant que métropole de Mécène, et tout près aussi, sans que la disposition soit parfaitement établie à l'heure actuelle, du dieu Héraclès, évidemment, le dieu thébain par excellence, emblème de la cité. Cette statue d'Epaminondas, la première qu'il mentionne, se trouve dans une pièce que l'on a pu identifier de l'Asclepieion, au centre de la cité, dans la pièce N. Il y a effectivement des socles, mais ce ne sont pas les socles inscrits, ce sont les soubassements. Donc l'identification est très probable du fait de la façon dont circulait Pausanias, mais non pas, disons, totalement assuré. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que, en l'occurrence, Pausanias précise qu'à la différence des statues de marbre qui entouraient Epaminondas, qui étaient des œuvres d'un sculpteur local, mais fameux, aujourd'hui bien connu, justement grâce à ses fouilles, c'est Damophon de Mécène, la statue d'Epaminondas était en fer, chose donc assez remarquable. Il le note, et qu'elles étaient d'un artiste, on s'en étonne pas, différent de Damophon, dont Pausanias ne mentionne cependant pas le nom. Évidemment, différent de Damophon, puisque Damophon est un sculpteur de l'époque hellénistique. Ça n'est pas lui qui avait fait, au IVe siècle, la statue en fer d'Epaminondas. Par ailleurs, il en mentionne donc une autre effigie d'Epaminondas à Mécène, qui était placée dans un espace sacré, appelé Hierotusion, et qui, d'après Pausanias, là encore très précis, se trouvait en compagnie de tous les dieux que reconnaissent les Hellènes. Livre 4, chapitre 32, phrase 1. Ce qui donc montre l'extraordinaire vénération dont jouissait Epaminondas dans cette cité de Mécène. Il était vraiment placé à l'égal des divinités les plus importantes. Au rythme où se font les découvertes à Mécène, il n'est peut-être pas déraisonnable d'espérer un jour prochain la trouvaille du socle inscrit d'Epaminondas dans le Hierotusion, non encore identifié que je sache, mais on a, avec Mécène, on a toujours une guerre de retard, une année ou deux, on ne sait pas, tant les fouilles, les découvertes se multiplient. Mais disons, je ne crois pas que le Hierotusion soit encore localisé. Mais il n'est peut-être pas besoin d'attendre cela pour être absolument convaincu que le témoignage de Pausanias repose ici sur l'autopsia, la vue évidemment directe des choses. Et nous avons la même situation encore à Montinet, quand il décrit le monument funéraire dressé à la mémoire d'Epaminondas, à l'endroit même où celui-ci perdit la vie en 362, au soir d'une bataille qui fit date dans l'histoire grecque. Notre auteur fait même clairement la différence entre les deux stèles que portait cette base, sans doute assez imposante, l'une pour l'épigramme ancienne, dont il note qu'elle était rédigée et donc gravée en béotien, en dialecte, hein. Il l'a noté, et avec une autre stèle portant une épigramme beaucoup plus récente, puisqu'elle était l'œuvre de l'empereur Adrien lui-même lors de son voyage dans le Péloponnèse de l'année 124. Cette description précise par Pausanias du monument d'Epaminondas à Montinet, restauré par un Romain Philhellène, a inspiré, je l'indique au passage, une fort belle page de à Marguerite Yourcenar dans ses mémoires d'Adrien. Je cite une phrase, page 174 de l'édition de Poche. Sur la route, donc le « je » c'est Adrien dans les mémoires, bien entendu. Sur la route, non loin de Montinet, je fis rénover la tombe où Epaminondas, tué en pleine bataille, repose auprès d'un jeune compagnon frappé à ses côtés. Évidemment, rappel de ce que vit Adrien lui-même avec le jeune Antinous. Il a comme un modèle classique. Une colonne où un poème fut gravé s'éleva pour commémorer ce souvenir d'un temps où tout vu à distance semble avoir été noble et simple, la tendresse, la gloire, la mort. C'est évidemment inspiré de très près, mais avec un style qui lui est propre, de notre passage de de Pausanias, qui est le seul à mentionner ce monument d'Épaminondas restauré par Adrien. Certes, Pausanias, en l'occurrence, à Mantinée, n'a pas pris la peine, parce que c'était sans doute assez malaisé, de copier et donc de reproduire les deux inscriptions en question, et de ce fait, nous en ignorons la teneur exacte. Le cas de la statue mentionnée à Thèbes apparaît donc maintenant dans toute sa singularité, me semble-t-il. Le silence observé par Pausanias sur la position, l'aspect, l'état de conservation, encore une fois, de ce monument est d'autant plus troublant que l'on peut à bon droit se demander ce qu'il restait de cette statue d'Épaminondas après la terrible destruction que l'on aura encore évoquée de 335 par Alexandre. S'agissait-il d'un simple stoc dont le bronze avait été arraché d'une nouvelle statue à la rigueur, érigée après le relèvement de la cité, d'une copie d'époque romaine, puisqu'Adrien, somme toute, pourrait avoir voulu relever également la statue d'Épaminondas à Thèbes même, dans la patrie de l'homme d'État thébain. Mais, tout de même, une objection vient immédiatement à l'esprit, s'il avait eu affaire, notre Pausanias, à un monument restauré peu avant son passage, ne l'aurait-il pas dit, comme il le fait expressément, par exemple, à Thespie, pour les roses de Praxitèle, disparues depuis un siècle à peu près, à l'époque de son passage, remplacées par une autre statue. Bref, on est acculé, je crois, à conclure que Pausanias n'a pas vu cette statue pour la bonne et simple raison qu'il n'en restait plus rien, pas même un socle vide. L'affirmation, évidemment, peut surprendre, puisque Pausanias a fourni à ses lecteurs le texte même de l'épigramme gravé sur le monument. Certes, mais il s'en faut de beaucoup que ce soit une preuve d'autopsie, car ce petit poème était suffisamment célèbre dans l'Antiquité pour avoir été recueilli dans une œuvre littéraire autre que la sienne. De fait, Plutarque y fait allusion. Je dis bien allusion, il ne la reproduit pas. Seul Pausanias la reproduit. Comme aussi le sophiste Aelius Aristide, à l'époque même de Pausanias, plus tard une scolie, donc un commentaire antique à l'orateur Échine. Mieux, elle avait été traduite en latin dès l'époque hellénistique, puisque Cicéron en cite le premier vers dans ses Tusculanes. Il dit, effectivement, « Concilis nostris laus est aton salaconum » et il dit bien dans son ouvrage que ce vers concernait Épaminondas. On y a également une allusion chez le biographe latin d'Épaminondas, Cornelius Nepos. Il est donc très aisé de supposer que Pausanias a eu connaissance de ce poème à travers un recueil d'épigrammes. Il en existait dès son époque, ou peut-être alors à travers une chronique thébaine, exactement comme dans le cas de l'épigramme qui était censé avoir été gravé sur la maison d'Amphitryon, héros thébain, également dans la ville de Thèbes, épigramme qui n'existait évidemment plus de son temps, à supposer qu'elle n'eût jamais été réellement gravée, comme cela ressort clairement de son récit. Il dit bien là, ce sont les Thébains qui disent qu'une épigramme avait été gravée, et cet épigramme, il a forcément dû la recueillir ailleurs. Alors, en faveur de l'origine littéraire de tout ce passage relatif à la statue d'Épaminondas, il existe au surplus un autre indice, à la fois, me semble-t-il, disons, différent et convergent. Dans la phrase qui introduit l'excursus, Pausanias, on s'en souvient peut-être, dit que les Thébains avaient honoré Épaminondas, fils de Polumnis. Épaminondan ton Polumnidos. Ces noms devaient donc figurer, et aussi, sur le piédestal, à l'origine, au-dessus de l'épigramme. Le problème, c'est qu'il n'est pas assuré du tout que Polumnis ait été la forme authentique du patronyme du grand chef thébain, dans les textes littéraires, mais qui sont tous, il faut bien le voir, vraiment sans exception, de l'époque romaine, comme la périégèse elle-même. C'est cette forme de polymnis qui s'est imposée, incontestablement, à quelques petites variantes près, le génitif, parfois est polymnidos, comme ici, ou parfois polymnios. Et polymnis écrit parfois avec deux M, non pas MN. D'autre part, il faut bien voir que ce nom de polymnis n'est toujours pas attesté dans l'onomastique thébaine, et plus largement béotienne, pourtant extrêmement riche et aujourd'hui parfaitement, on peut dire, maîtrisable, grâce au Lexicon of Greek Personal Names, tome 3A, paru en l'an 2000. Mais deux raisons font douter, en plus, que Polymnis soit le véritable nom de ce personnage présenté dans nos sources, y compris Pausanias, comme un thébain cultivé, de très noble origine, quoique moins fortuné, sinon plus pauvre, que les citoyens de la classe moyenne. Ce personnage, ce père de d'Épaminondas, n'est certainement pas le premier venu. Figure intéressante du corps civique thébain. La première raison, c'est que d'après Pausanias lui-même, dans sa description de l'Asclépion de Mécène, j'y reviens, où se trouvait, on s'en souvient, la statue en fer d'Épaminondas, le père du héros thébain se serait appelé, non pas Polymnis, mais Cléomnis, au témoignage de tous les manuscrits pour ce passage de la périégèse. Les éditeurs conservent donc la leçon Cléomnidos, génitif, mais avouent leur perplexité. En fait, il est légitime de penser que Pausanias a copié ce nom directement sur le socle du monument, alors encore parfaitement conservé. Le problème, c'est que, nous jouons peut-être de malchance, Cléomnis, la leçon de Mécène, si l'on peut dire, est également un nom inconnu, un apax absolu, si je vois bien. Seule la trouvaille donc de la pierre mécénienne en question, ou la découverte de l'Hierotusion avec la seconde base pour une statue qui était elle de bronze, pourrait peut-être trancher la question en nous disant quelle était véritablement la forme inscrite sur le socle. À défaut, on se contentera d'alléguer un document découvert il y a peu, qui constitue à mes yeux la seconde raison pour mettre en doute l'authenticité du nom Polymnis. L'intérêt de cette inscription, trouvée bien loin de la Béotie, ne paraît pas avoir été aperçu, en tout cas en ce qui concerne cette question du patronyme d'Épaminondas. Il s'agit d'un sobre décret découvert en Asie mineure, dans la ville de Cnide, donc dans la partie plutôt méridionale de la côte ouest de l'Asie mineure. Voilà ce fragment, publié en 1994 par l'épigraphiste Wolfgang Blümel dans Epigraphica Anatolica. Un décret des Cnidiens qui accordent l'honneur de la proxénia, normal pour un étranger honoré, au Thébain Épaminondas. Le nom d'Épaminondas se lit relativement bien, malgré quelques lacunes, il est incontestable. Vous voyez que cette inscription est magnifiquement gravée en grands caractères, et la lecture dans l'ensemble est aisé. L'ethnique Thébaios, Thébaion, est parfaitement conservé. Donc, un beau document qui vient confirmer une chose que l'on savait de manière imprécise, grâce à un passage de Diodore, c'est que Épaminondas, il était bien, de manière générale, avait eu, à partir de 368, et plus nettement encore en 366, une politique navale, ce qui, de la part de ce peuple plutôt continental, était remarquable et témoignait de l'audace d'Épaminondas. On avait chez Diodore mention d'un certain nombre de cités égéennes qui avaient adhéré à l'alliance thébaine en se séparant des Athéniens. C'était notamment Rhodes, c'était Chios, Byzance, et il est clair que bien d'autres cités aussi avaient dû se joindre à ce mouvement. On voit aujourd'hui, c'est un apport incontestable, un enrichissement que les Cnidiens, cette ville célèbre par dès cette époque ou un peu plus tard par la création de la fameuse Aphrodite de Cnide de Praxitèle, cette cité dorienne avait adhéré à l'alliance thébaine. Mais donc le nouveau décret, outre ce, encore une fois, cet apport historique incontestable, fournit aussi la première attestation épigraphique du nom porté par le père d'Épaminondas. Hein. Bien que cet anthroponyme soit, malheureusement, le bonheur n'est jamais parfait en épigraphie, amputé de sa deuxième syllabe. On a po, voilà, donc quelque chose qui est établi de manière définitive, ce nom commençait par po. Donc la leçon Cléomis à Mécène, elle a peut-être des éléments corrects, mais en tout cas pas l'initiale. Hein. Ça commençait bien par po. Et selon la restitution proposée par l'éditeur, on devrait lire Polumeis, Polumis, donc une forme assez proche, la plus proche possible, dirions-nous, de celle que transmettent les sources littéraires de l'époque romaine, Polumnis. Le problème, c'est que Polumeis, qui bon, peut donner l'apparence d'un nom correct, n'apparaît pas dans le nomastique thébaine, ce qui n'est pas évidemment un argument absolument péremptoire ou rédhibitoire, mais tout de même inquiète. C'est donc un nom un peu différent que je crois pouvoir rétablir dans le décret de Cnide, soit Polemeis, Polemeis avec deux mu, donc la seconde syllabe n'est pas li, mais le lé, ce qui épigraphiquement ne pose aucun problème, et c'est un nom parfaitement bien attesté en Thessalie, ce pays thessalien éolien si proche linguistiquement de la Béotie, et chose frappante, à Thèbes même par le nom féminin Polémo, donc ces noms à redoublement qui sont très bien connus en pays béotien. On comprendrait donc très bien, me semble-t-il, que ce nom exclusivement thessalien et béotien, donc éolien peut-on dire, ait été corrompu, n'ait pas été compris, ait été corrompu dans la tradition de Polemeis à Polumeis, Polumnis, voire alors de façon très divergente dans le livre messénien de Pausanias en Cléomis. Quelle conclusion en tirer pour le problème qui nous occupait de l'autopsie de la base d'Épaminondas à Thèbes? Si Pausanias, au livre 9, a écrit Polumnidos pour désigner le père d'Épaminondas sur le piédestal, c'est qu'il dépend nécessairement d'une source littéraire. C'est la forme littéraire telle qu'elle existait à l'époque hellénistico-romaine. Et donc, en quelque sorte, une nouvelle preuve qu'il n'a pas eu un contact direct avec la pierre. Il semble donc établi que, pour décrire les monuments et édifices de Thèbes, le périégète n'a pas eu seulement recours à l'autopsie. Il fait également usage de sources écrites, il faut s'en souvenir, ou pour répondre la formule un peu acerbe, un peu critique, mais pas totalement injustifiée, de Maurice Oleau, il a voyagé aussi dans les livres. On ne saurait certes lui en faire reproche, compte tenu de tout ce qui avait disparu au cours des siècles précédents, compte tenu aussi des vicissitudes extraordinaires de l'histoire thébaine. Mais, évidemment, on eût aimé qu'il le confesse plus souvent, et sans fausse honte, surtout là où les ravages du temps rendaient impossible l'examen direct des monuments. L'importance des sources littéraires est de fait considérable dans tout l'excursus historique consacré à Epaminondas. Comment pourrait-il en aller autrement ? Pausanias devait nécessairement se reporter au récit des historiens qui l'avaient précédé. On voudrait savoir précisément lesquels. Pausanias est très discret là-dessus. On peut, dans certains cas, tout de même le deviner. Je prendrai comme exemple, parce qu'il a un intérêt historique considérable à mes yeux, un épisode très intéressant lié à la bataille de Leuctre, où il évoque la divergence d'opinion au sein du collège des Béotarques, donc des chefs de l'État béotien, ou plus exactement thébain, avant la bataille de Leuctre. L'intérêt de ce passage tient au fait qu'il est un des rares textes littéraires à attester l'existence de sept Béotarques. Un nombre qui, je le disais la semaine dernière en conclusion, me paraît incontestablement lié en rapport avec les sept fameuses portes de Thèbes, chaque chef étant en quelque sorte le défenseur attitré d'une des portes. On me rétorquera que les Béotarques n'ont pas toujours formé un collège de sept membres. C'est parfaitement exact. Pendant un demi-siècle au moins, dès l'année 447 sans doute, et jusqu'en tout cas à la paix d'Antalcidas, fameuse paix du roi en 386, ce sont 11 Béotarques qui ont dirigé l'État béotien à raison d'un Béotarque par méros, par district, comme on le sait grâce à la fameuse description de la constitution béotienne qui nous a été restituée par la découverte du papyrus d'Oxyrhynchus, donnant un grand extrait historique, d'ailleurs anonyme. Mais cette constitution, que l'on connaît relativement bien, il faut bien voir qu'elle ne fut pas l'œuvre des seuls Thébains. Ce fut, au milieu du Ve siècle, un projet pont-béotien, précisément. Antérieurement, c'est-à-dire à l'époque des guerres médiques, par exemple, quand Thèbes exerçait l'hégémonie déjà sur la Béotie, on peut supposer qu'il n'y avait que sept Béotarques, même si on ne peut donc pas l'affirmer absolument, faute de documents pour le moment. Qu'en est-il advenu alors après la paix d'Antalcidas? Ce qui est sûr, c'est qu'une fois Thèbes libérée de la tutelle spartiate, qui s'était donc concrétisée par l'occupation de la Cadmée, de l'Acropole, entre 382 et 379, épisode fameux que nous avons évoqué il y a quelques semaines au séminaire à travers les témoignages littéraires, les Thébains instituèrent, ou peut-être, me semble-t-il, rétablirent un collège de sept Béotarques, nombre qui était beaucoup plus conforme à leur tradition ancestrale, puisqu'ils avaient à nouveau la haute main sur l'État béotien, ou en tout cas prétendaient à cette hégémonie. Les textes qui nous assurent du nombre des sept Béotarques sont encore une fois très peu nombreux. Si l'on fait abstraction des inscriptions, Pausanias est avec l'historien Diodore de Sicile l'un des très rares témoins de cette réforme institutionnelle. Non pas certes que le Périégète ait mentionné expressément cette réforme, puisqu'en réalité, il faut le noter au passage, il ignore totalement l'intermède évoqué par l'anonyme d'Oxyrhynchos, c'est-à-dire ces 50 années où le collège des Béotarques était au nombre de 11. Mais il atteste indirectement cette réforme pour nous à travers son récit de la victoire des Thébains à Leuctre en 371. Car il en ressort très clairement, comme d'ailleurs du récit de Diodore, l'historien donc de Sicile du 1er siècle avant Jésus-Christ, livre 15, chapitre 52, que les Béotarques furent divisés sur la conduite à tenir face à l'agresseur lacédémonien. Ce passage de Pausanias est au livre 9, chapitre 12. Je le mets sous vos yeux. Oui, les Béotarques étaient divisés. Épaminondas, principal d'entre eux, avec deux de ses collègues, était d'avis d'engager la bataille, tandis que trois autres préféraient se replier derrière les murailles de Thèbes, face à cette armée lacédémonienne, jusqu'alors invincible et terrifiante. Il fallut donc départager le collège, en attendant l'arrivée du septième Béotarque, comme dit de façon très significative Pausanias, au hebdomos ton boyotarkon, et la même expression, ou à peu près, figure dans le récit parallèle de Diodore. Un magistrat qui avait reçu ce septième Béotarque, qui n'était pas sur place à Thèbes, il avait reçu la mission de protéger le passage du Citéron au cas où les Lacédémoniens seraient passés par le sud. Donc Thèbes, Leuctre est par ici, le Citéron, le septième Béotarque surveille le col, alors que l'armée lacédémonienne est entrée ou a tenté de pénétrer en Béotie depuis la Phocide, où était le roi de Lacédémone, Cléombrotos, entrant par la vallée du Céphise, Kéroné, et le essayant de pénétrer par la rive sud du lac Copaïs. En réalité, les Lacédémoniens furent bloqués devant Coroné, semble-t-il, en tout cas entre Kéroné et Coroné, et le roi, de manière très audacieuse, pris une route de montagne depuis la Phocide, route très difficile mais peu gardée, par Styris, Boulis, donc à l'extrême gauche de la carte, arrivant sur la côte sud de la Béotie, prenant le port de Creusis, ici, port de Creusis dont on a vu qu'il était proche de Platée mais qu'il appartenait normalement à Thespie, en l'occurrence il appartenait aux Thébains, avec une flotte qui était installée, et de Creusis, Cléombrotos remonte vers Thèbes. La rencontre aura lieu entre les deux points à Leucre. Et dès ce moment-là, évidemment, le septième Béotarque n'a plus sa raison d'être sur le Citéron. Il faut que de toute urgence, il rejoigne ses collègues. Et chose remarquable que vous voyez au début du texte, que je remets pour terminer, Pausanias nous a donné la liste nominale des sept Béotarques. Avant d'examiner rapidement cette liste, dont je m'occuperai au séminaire en rapport avec une inscription, il faut se demander comment Pausanias a pu connaître cette liste si précise des sept Béotarques, car il est vraiment le seul à la fournir. Les sept Béotarques de Leuctre, nous ne les connaissons que par Pausanias, ni Xénophon, pourtant historien contemporain, ni Diodore, dont le texte est cependant, on l'a vu, proche de celui de Pausanias, ne font cette liste nominale.
C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, le Collège de France avec Denis Knopfler. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé. Vos prochains rendez-vous. Dans un lieu public, convivial, ouvert à tous, chaque samedi, retrouvez Frédéric Mitterrand et son invité pour une conversation intime et vivante de 2 heures.
Je recevrai une personnalité du monde des arts, de la culture, avec de la musique, des petits textes, des souvenirs radiophoniques à lui faire écouter, et j'essaierai d'aller un petit peu plus loin ou de connaître un peu mieux cette personne au cours de ce qui sera, je l'espère, une vraie conversation.
Ce samedi 9 septembre, en direct et en public du Café de l'Industrie, 17 rue Saint-Sabin, dans le 11e, Frédéric Mitterrand recevra la cinéaste Catherine Breillat. Samedi, l'après-midi, si le cœur vous en dit, chaque samedi, de 15h à 17h. Votre matinée sur France Culture. 9h05, la fabrique de l'histoire, histoire des classes sociales. Aujourd'hui, débat historiographique avec historiens et universitaires. 10h, les humanités, affinités électives, rencontre avec Yves Le Fur, ancien conservateur au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie et actuel directeur adjoint responsable des relations culturelles et scientifiques du Musée du Quai Branly. Yves Le Fur a dirigé l'édition D'un regard l'autre, histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, exposition au Musée du Quai Branly, 19 septembre 2006, 22 janvier 2007, édition du Musée du Quai Branly, acte sud 2006. 11h, les chemins de la connaissance, psychanalyse, la nouvelle clinique, c'est le thème de la semaine et ce matin, l'invité est Hugo Freda qui parlera de la clinique de la précarité. Il est temps d'ouvrir les yeux, les matins de France Culture ont sonné, l'heure de retrouver Ali Badou et son invité.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, il est 6h59, un verre d'eau, un café et 2 sucres, ce sont les habitudes d'Olivier Passeret tous les matins dans ce studio. Un petit mot des programmes, ce jeudi 7 septembre à 7h20, vous retrouverez les enjeux internationaux, les enjeux qui iront en Turquie ce matin, la Turquie, la guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban et la récente vague d'attentats sur son propre territoire, ce sont les sujets qu'abordera Thierry Garcin tout à l'heure. Et puis à 8h20, À 8h20, notre invité sera Denis Jambard. Il quitte l'Express puisqu'il a été nommé PDG des éditions du Seuil. Il doit prendre ses fonctions dans quelques semaines. Beaucoup de sujets à aborder avec lui tout à l'heure, notamment autour de l'essai qu'il publie avec la journaliste Jacqueline Rémy. Le titre d'essai de cet essai qui sort aujourd'hui en librairie, il s'énonce comme une certitude et un constat très sombre. Nos enfants nous haïront. C'est un livre sur la société contemporaine et la responsabilité de toute une génération, celle des baby-boomers, une génération qui a pratiqué la politique de la terre brûlée sans assurer l'avenir de ses enfants, écrivent Denis Jambard et Jacqueline Rémy. On va en parler tout à l'heure avec Denis Jambard. Vous écoutez France Culture, il est 7h. Et le journal est présenté par Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Épique, homérique, employez les termes que vous préférez, la bataille autour de Gaz de France qui s'ouvre cet après-midi au Palais Bourbon s'annonce en tout cas houleuse. Les partis sont décidés à en découdre, la gauche est remontée, la majorité a resserré les rangs. Avec Jean-Claude Pajac, nous nous arrêterons quant à nous sur la stratégie des syndicats, discret jusqu'à présent, mais c'est pour mieux dégainer la semaine prochaine. Ils consultent ce jour les salariés de GDF avant de descendre dans la rue mardi. Les applaudissements dans l'avion de Kofi Annan, ils ont éclaté hier lorsque le secrétaire général de l'ONU, en route pour Madrid, a appris qu'Israël acceptait enfin de lever le blocus imposé au Liban. Nous joindrons Philippe Bolopion et nous entendrons la prudence d'Avi Pazner, le porte-parole du gouvernement israélien. Dans cette édition, nous irons également en Afghanistan, où s'est rendu le président pakistanais. Les deux pays tentent difficilement de surmonter leur méfiance mutuelle pour lutter contre les talibans. Mais tout de suite, détour par un visage très attendu et une histoire hors norme. Cette échappée d'une enfant captive 10 ans après son enlèvement. Cela fait 2 semaines que l'Autriche ne vit que par les rebondissements de l'affaire Campouche. Et hier soir, le pays était rivé à ses téléviseurs. Natacha Campouche, enlevée à 8 ans, enfuie à 18 ans de la cage dans laquelle son ravisseur l'avait maintenue. Parle à visage découvert de ses années et de cette promesse qu'à 12 ans, elle avait faite, dit-elle, à son futur moi. Un jour, elle s'évaderait. Christian Philippe.
Pendant 40 minutes, Natacha Campouche a raconté son calvaire. Vêtue d'un jean, d'un chemisier, d'un foulard mauve, cette jolie jeune femme pâle et enrhumée s'exprimait dans un langage remarquable et riche avec une grande lucidité. Elle raconte son angoisse à l'arrivée dans son cachot, sa claustrophobie et sa colère impuissante. Elle a souvent eu faim, dit-elle, ce qui s'est traduit par des troubles cardiaques. Elle a préparé sa fuite de longue date et avait choisi un rare moment d'inattention de son ravisseur qui la contrôlait de près. Lors des rares sorties avec son geôlier, elle avait tenté d'adresser des appels à l'aide discrets à de tierces personnes, signes qui n'ont pas été compris. Wolfgang Priklopi l'avait menacé de la tuer et quiconque l'aiderait à fuir. Natacha se présente comme étant plus forte que son ravisseur qu'elle décrit comme personnalité instable. Ses projets pour l'avenir, passer son bac et se consacrer à 2 grands projets d'aide, l'un en faveur de femmes disparues au Mexique, l'autre contre la faim en Afrique.
Cela sera-t-il le feuilleton de l'automne en France? La privatisation de GDF, préalable nécessaire à une fusion avec Suez, le débat que tous promettent épique est déjà entré dans les annales de la Ve République par le nombre record d'amendements déposés, 140 000. Il s'ouvrira cet après-midi à l'Assemblée. L'opposition s'est donc placée à l'ordre de bataille. Elle place ses arguments à la fois sur le terrain social, le risque de hausse des prix du gaz, économique, cela n'accroîtra pas, dit-elle, l'indépendance énergétique de la France. Politique, c'est la question de la légitimité démocratique, pour reprendre les termes employés par Laurent Fabius, qui rappelait hier la promesse de Nicolas Sarkozy aux députés il y a 2 ans, selon laquelle l'État ne descendrait pas en deçà de 70% de participation dans l'entreprise publique. Le projet envisagera pour le de ramener sa participation à 1/3 environ de GDF. Laurent Fabius, qui hier soir a appelé Jacques Chirac à consulter les Français par référendum sur cette question. En tout cas, 70 000 Français vont être consultés dès aujourd'hui. Ce sont les salariés de Gaz de France. Un vote organisé sur tous les sites par Force Ouvrière et la CGT. Les deux syndicats espèrent en tirer un rejet massif du projet. Les cadres, en tout cas, apparaissent divisés. Écoutez d'abord un cadre contre, Arnaud Gentil.
Je suis pas contre le fait qu'une partie de l'entreprise soit aux mains d'actionnaires. Je veux que l'actionnaire majoritaire soit l'État et qu'il garde la maîtrise de l'entreprise. Pour nous tous citoyens, c'est stratégique. Le gaz n'est pas un produit comme les autres. Il faut pas qu'on perde la main là-dessus. On va faire rentrer une majorité d'actionnaires qui vont demander principalement du profit. Ça présente des risques évidents. On a pu le voir sur d'autres secteurs dans d'autres pays. En Angleterre, par exemple, dans le secteur ferroviaire. J'ai envie que l'agent citoyen que je suis soit toujours propriétaire d'une entreprise que je considère comme citoyenne.
Et le point de vue des pour, c'est Marie Mugler de la direction commerciale qui le porte.
L'ouverture des marchés, ça implique un monde où la compétition est présente et pour être puissant dans cette compétition, il faut se marier. Alors pourquoi Suez? D'abord parce que on a l'habitude de travailler ensemble. Ensemble, on amène dans la même corbeille du gaz, de l'électricité, des moyens de transport renforcés. Et comme nous sommes plus puissants pour discuter auprès des fournisseurs qui sont extra-européens, on aura de meilleures conditions et ces conditions, on va les pousser auprès de nos clients. Pour nous qui travaillons à Gaz de France, ça ne va pas changer mon travail, la fusion. Au mieux, ça va me donner de meilleures perspectives de développement de carrière.
Des propos recueillis par Véronique Julia. On le voit, Jean-Claude Pajac, ce n'est pas forcément l'unanimité chez Gaz de France, même si les syndicats s'attendent à un rejet massif.